J'essaie de voir comment je vais aborder les choses parce que je ne suis pas certain qu'on soit tous au même niveau en matière de logiciel libre. Donc je vais commencer par les fondamentaux, en essayant d'être rapide. Les fondamentaux, c'est que le logiciel libre, ça comprend quatre libertés. Alors, les puristes me pardonneront de ne jamais retenir les libertés dans leur droit. Donc la liberté numéro 0, c'est celle d'exécuter. Celle-là, je la connais par cœur pour tout un tas de raisons, notamment suite à nos débats estivaux avec le fondateur du logiciel libre. Et les autres libertés, dans le désordre, c'est la liberté donc, de modifier le code dans le programme, la liberté de l'étudier et la liberté de le redistribuer. Et cette notion de redistribuer est extrêmement importante parce qu'elle inclut évidemment la notion de copier. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un programme et le copier et modifier son contenu pour en faire autre chose. Et là, du coup, on touche aux notions importantes parce que ça permet à l'univers du logiciel libre de développer tout un ensemble de bureaux. Alors je dis tout de suite, quand je parle de diversité, il faut bien lire le synopsis de la conférence, on parle bien de la diversité des bureaux, et pas de la diversité comme on l'entend aujourd'hui dans le langage courant. Et cette diversité de bureaux, elle a à la fois ses avantages et ses inconvénients, et c'est ce qu'on va essayer de montrer. Je précise juste que c'est un bureau maintenant, pour ceux qui viennent de l'univers Windows ou Mac, dans l'univers GNU Linux, on a plusieurs niveaux d'affichage en fait, de l'information. Alors par défaut, ça reste un ordinateur très basique, donc il affiche de la ligne de commande avec des lignes noires et des lignes blanches et un fond noir. Et c'est son mode de fonctionnement, on va dire, par défaut, tel que pris brut. Et puis par-dessus cette première couche, vient s'en poser une autre, qu'on appelle la couche graphique, qui elle-même en fait a deux niveaux. Il y a le niveau, on va dire, matériel, ce qui prend en charge voilà, comment afficher l'information, comment taper au clavier, etc. Et puis après, la question c'est, je voudrais afficher des icônes, je voudrais des fenêtres, je voudrais des boutons, des cases, etc. Et comment on gère ça? Et ça c'est géré par tout un ensemble de choses qu'on appelle en fait un bureau. C'est lui qui affiche ses dessins, qui affiche ses informations. C'est pas exact techniquement, mais c'est au moins pour vous donner une idée du découpage. Et donc on peut très bien imaginer avoir un système GNU Linux tout à fait ordinaire, avec une pile graphique matérielle qui soit commune à tous les systèmes GNU Linux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, on peut très bien imaginer que la façon de dessiner les fenêtres, de les concevoir techniquement, et la façon de les, de les organiser, d'interagir avec au niveau du clavier, d'interagir avec au niveau de la souris, et cette façon de faire, elle peut très bien être différente et répondre à des règles totalement différentes. Et en fait, c'est à la fois une force, évidemment, pour le logiciel libre, et évidemment aussi une de ses faiblesses. C'est un petit peu ce qu'on va tenter de comprendre ici, et on terminera par une petite démonstration de ce qu'il existe aujourd'hui, et qui, ma foi, me semble être une bonne voie pour la future accessibilité de ces environnements GNU Linux, qui ont la caractéristique d'être complètement libres. C'est-à-dire vraiment, ils répondent, les distributions GNU Linux, pour la plupart d'entre elles, par défaut, répondent aux quatre critères, tous les programmes qui sont installés dans ces distributions, répondent aux quatre critères qui définissent le logiciel libre. Dernier concept technique, pour là encore ceux qui ne sont pas familiers, une distribution, c'est quoi? C'est, on récupère un noyau Linux, on récupère les logiciels qui permettent de le faire fonctionner et on essaye de mettre tout ça en musique pour que ça puisse fonctionner de façon cohérente et facile d'accès pour l'utilisateur. Donc on met en place pour ça des programmes qui font tout un travail de transformation du code pour que tout se mette en cohérence au sein d'un environnement global. Et c'est ce qu'on appelle la distribution. Vous avez déjà entendu parler, je pense, au moins de nom des distributions comme Ubuntu, c'est la plus grande publique et celle qui est le plus connue. Et il y en a d'autres, hein. Il y a Debian, il y a Red Hat, il y a plein d'autres en fait. Alors si je me consacre maintenant à l'accessibilité pure et dure, en introduction j'en ferai un bref historique, en disant que avant 2008, GNU Linux c'était essentiellement l'accessibilité en ligne de commande. Alors c'était pas très compliqué, hein, évidemment, comme ceux qui ont connu MS-DOS savent que c'est pas la chose la plus difficile. Il suffisait à l'outil qui permettait de lire le braille et à l'outil qui permettait de restituer en vocal de se connecter sur une partie du système et de lire vocalement ce qui était affiché là où se trouve le curseur du PC. Donc ça, c'est pas très sorcier, on y arrivait très bien et on était tous contents. Sauf qu'en 2008, déjà, vous serez d'accord que bah, XP était déjà sorti depuis quand même 10 ans pratiquement, enfin pas 10 ans, mais presque, à peu près 7-8 ans. Et c'était un peu la ligne de commande, ça restait un peu, voilà, c'était pas très grand public comme approche et c'était plus tout à fait à la mode. Et donc on a dû passer à une autre phase, et cette phase a été incarnée à partir de 2004 et jusqu'en 2008, et c'est en 2008 que sont sortis les premiers logiciels, par un grand projet, très grand projet, une fondation aujourd'hui, qui s'appelle GNOME. Et il faut rendre hommage à GNOME parce que c'est eux qui, à partir de 2004, ont décidé de sponsoriser l'accessibilité à tous les niveaux dans leur outil. C'est-à-dire que GNOME, c'est des gens qui ont conçu un ensemble technique qui leur permet de faire de l'affichage graphique et de générer un bureau à la fin. Et ce bureau est accompagné pour des soucis de cohérence, un tas d'outils qui peuvent être, voilà, vous avez le client mail par exemple, le logiciel de messagerie, vous avez le navigateur internet, vous avez un tas de trucs, et tout ça c'est avec GNOME, et ils ont inclus, et c'est les premiers qui l'ont fait, il faut leur rendre hommage pour ça, ils ont inclus un logiciel qui est un lecteur d'écran, ce qu'on appelle une revue d'écran, et qui s'appelle Orca. Ça c'était pour 2008, et on va dire que jusqu'en 2011-2012, tout va bien. GNOME continue à se développer, Orca continue à progresser, certes, il y a des bugs encore, un certain nombre, mais ça continue à progresser. Et puis, l'informatique, ça va très très vite, hein. Les évolutions technologiques sont ce qu'elles sont. Et à partir de 2012, ils ont décidé de passer à GNOME 3. Et là, on peut dire que entre 2012 et 2014, on a un trou d'accessibilité. On va développer pourquoi, et on va développer comment aujourd'hui on a la solution pour sortir de ce problème, de cette problématique. Alors, clairement, hein, la difficulté d'accessibilité s'est posée d'abord à cause de GNOME, effectivement, et d'une évolution, mais aussi à cause de la diversité permise par le logiciel libre. Donc en fait, ce qu'on va montrer aussi ici, c'est que cette pluralité que permet le logiciel libre, cette diversité, elle a toute sa force. Et sa faiblesse, c'est que du coup, elle expose l'accessibilité à un certain nombre de risques. Et l'idée, c'est de renforcer les parties qui lui permettent de progresser et pour compenser les faiblesses qu'elle peut avoir. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Bon, alors pourquoi la diversité, déjà, c'est un paramètre qu'on peut appeler fragilisant. Alors pourquoi d'abord on peut parler de diversité? À partir du moment où vous avez le droit de regarder un code, de le prendre, de le copier et de le modifier, vous pouvez très bien envisager que chacun fasse son choix. Là, le logiciel libre s'est fait souvent, très souvent par des bénévoles, et donc les bénévoles, on ne les fait pas travailler sur ce qu'ils veulent pas. C'est-à-dire que s'ils préfèrent travailler et coder d'une telle manière plutôt que d'une autre, programmer d'une telle façon plutôt que d'une autre façon, c'est difficile de leur imposer de faire autrement. On peut les recommander, on peut les sensibiliser, c'est ce que fait notamment l'association Liberté Zéro. On peut faire un tas de choses, mais on ne peut pas non plus leur imposer. Donc chacun a pris son petite chose, chacun a fait son montage technique au niveau du graphique. Oui, mais seulement, pas tout le monde a fait comme GNOME et a pris en compte l'accessibilité. Alors, pour poser des noms, qui ne vont pas beaucoup vous parler, mais on va juste le retenir à titre de repère, on a deux grandes familles, on va dire, de façon de programmer graphiquement les objets, en fait, hein, les cases à cocher, les fenêtres, les icônes. On a la famille GTK, c'est ce qu'a développé notamment GNOME, et on a la famille Qt, qui est un autre développement, dont dépend KDE, pour ceux qui en ont entendu parler, et qui est plutôt soutenu historiquement par Nokia. Enfin, qui était historiquement, Nokia a aujourd'hui ça. Il y a d'autres, l'histoire c'est que, évidemment, les années avançant, il y a de plus en plus d'ensemble de façon de programmer les interfaces graphiques avec tout un tas d'autres façons de l'aborder, alternatives encore à Qt et GTK. Alors le premier problème, c'est que cette diversité, elle fait quoi? Comment ça marche l'accessibilité? L'accessibilité, c'est que le lecteur d'écran, donc Orca, puisque c'est le seul qui existe Linux, Orca, il est placé à un endroit de la chaîne qui fait que à un moment donné, il récupère les informations que lui envoie le bureau. C'est-à-dire que le bureau lui envoie un certain nombre d'informations, par exemple, voilà, là ton focus, il se trouve sur son curseur, il est sur une case à cocher, il est sur une icône du bureau, il est sur un bouton, il est sur un bouton radio, il est sur, je sais pas, bon, et le lecteur d'écran récupère, il dit, ben voilà, par exemple, on va le faire ici, hein, c'est pas très très compliqué, si je fais par exemple, j'ouvre les préférences du lecteur d'écran, voilà,
voix
anglais de page, donc en clair, on y m'explique qu'on est sur un onglet, et que c'est un titre d'onglet qui s'appelle voix. Si j'avance un peu, type de voix, c'est l'étiquette de la liste déroulante, par défaut, c'est le paramètre, l'un des paramètres de cette liste déroulante, et boîte combinée, c'est la manière dont le lecteur d'écran qualifie les listes déroulantes, etc., etc. Bon. Le problème, c'est que le lecteur d'écran, ça reste un programme, hein, et il n'y a rien de plus idiot qu'un programme informatique. Et si on ne lui transmet pas la bonne information, ben, il fait rien. Alors, il fait, dans le meilleur des cas, il fait rien, j'ai envie de dire, et puis dans le pire des cas, il fait mal. C'est-à-dire qu'il donne des informations erronées, on a l'impression qu'on est à un endroit alors que c'est autre chose, il ne qualifie pas correctement les choses, donc c'est, voilà, il ne fait rien ou pas bien. Et alors évidemment, le truc c'est que GTK, comme c'est eux qui ont en gros intégré la problématique de l'accessibilité, bah, ils ont conçu Orca, ils ont forcément conçu GTK pour que GNOME puisse être entièrement accessible, qu'il envoie au lecteur d'écran les bonnes informations et que le lecteur d'écran fasse son boulot. Oui, Qt n'a pas fait ce travail, comme la plupart des autres, interfaces graphiques, que ce soit Qt, que ce soit WXJet, il y a plein d'autres interfaces graphiques, hein, c'est ce qu'on expliquait, plein d'autres façons de faire. Ils n'ont pas fait ce travail, ils n'ont pas intégré l'accessibilité. Après, on ne va pas aller leur taper dessus, hein. C'est tout simplement un problème de compétence, c'est un problème de manque de moyens, c'est un problème de... Voilà, c'est pour plein de raisons tout à fait excusable et explicable, il n'y a pas de souci. Enfin. Mais le fait est que ça n'a pas été fait. Et quand GTK a décidé donc de se mettre à jour, c'était une révolution en GTK, hein. C'était un truc, ça y est, en fait, on était à GTK 2 en 2011 et on est passé à GTK 3. Et GNOME annonçait ça comme le futur, quoi. C'est un truc... Et on n'a jamais autant perdu en accessibilité. On a eu des régressions en masse. Il y a eu un processus de réécriture complète de la façon dont les choses se faisaient. Et résultat, on a perdu énormément en matière d'accessibilité. Le problème, c'est que les distributions, si je prends par exemple Debian, leur bureau par défaut, c'est-à-dire celui qui est installé par l'utilisateur quand il clique sur suivant, suivant, suivant dans la Z, en quelque sorte, et eh bien c'est GNOME. Donc ça veut dire quoi? Que ça voulait dire que parce que GTK était devenu inaccessible, et parce que les autres bureaux, qui en fait finalement ça revient à une dispersion de moyens, c'est-à-dire que tous ceux qui bossent sur Qt et sur les autres types de graphiques, ils ne bossent pas sur GTK. Et cette dispersion de moyens, ça fait qu'à la fin, bah, en fait, on a perdu totalement l'accessibilité générale. Bon. Du coup, aujourd'hui, on en est à un état où il y a toujours que ce GTK toujours accessible, mais quand même, une des questions qui s'est posée justement à cette époque-là, même un peu avant d'ailleurs, mais qui est devenue criante d'actualité à cette époque-là, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre au lecteur d'écran à lire autre chose que GTK, à capter de l'information ailleurs, donc par exemple Qt au hasard, et à être capable de faire. Et donc on a commencé à faire en sorte que la tuyauterie qui permet d'alimenter Orca, pour lui donner les bonnes informations, cette tuyauterie soit capable et de faire fonctionner le lecteur d'écran sur une base GTK, et le lecteur d'écran sur une base Qt. Ces travaux sont toujours en cours. Quel est leur niveau d'avancement? J'ai envie de vous dire, pas mal. Aujourd'hui, certaines applications en Qt sont quand même globalement accessibles. Orca, pour sa part, a aussi beaucoup évolué. C'est-à-dire que, en marge évidemment de l'évolution même de GNOME, même s'il y est encore très intégré, il a lui-même corrigé progressivement les bugs, réécrit l'ensemble de l'application pour qu'il puisse comprendre GTK dans sa nouvelle version. Bon, donc on commence à redresser un petit peu la tête. Pour autant, c'est pas encore parfait. C'est pas encore parfait. Pourquoi c'est pas parfait? Parce que GNOME 3 aujourd'hui, il y a encore des problèmes d'accessibilité pour les utilisateurs grand public. Ça marche aujourd'hui. il n'y a plus de bugs, c'est déjà ça. Mais force est de constater que quand on veut commencer à faire des personnalisations en termes d'aménagement visuel pour les malvoyants, ou intégrer des logiciels de saisie vocale pour les déficients moteurs, ou des choses comme ça, là on est déjà un peu plus en difficulté et on entre dans un grand niveau de complexité. Quand on a besoin dans Gnome 3 de se déplacer avec le clavier, ce qui pour un aveugle est une obligation puisqu'il ne peut pas utiliser la souris, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Le problème c'est que quand on est avec Gnome, alors après je veux bien vous trouver un peu de proposition de formation sur la question, c'est moi, mais en fait quand on se déplace sur le bureau Gnome tel qu'il est conçu aujourd'hui, je ne parle pas de sa version flashback qui elle effectivement est peut-être un peu plus capable de répondre à nos besoins, mais la version telle qu'elle est conçue par Gnome, ben on a l'impression qu'on a des barres qui s'alignent les unes avec les autres et on ne sait pas vraiment où se trouvent les éléments. Alors on finit par les trouver les éléments, mais ça veut dire qu'en gros il faut retenir à chaque fois leur plat, enfin c'est un peu... c'est pas quelque chose de complètement compliqué. Et c'est là qu'entre en jeu la deuxième notion, c'est que cette diversité qui a tant posé problème et qui a notamment été responsable d'une agression d'accessibilité, elle a également été une force pour le logiciel libre. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où on peut... Bon, il faut que vous sachiez, pour ceux qui ne sont pas familiers du libre et de sa communauté, que GTK3 et la sortie de Gnome 3, ça a été un des grands séismes de la communauté. Il y a eu pas mal de débats animés, voire plus, des échanges nourris, constructifs, destructifs aussi, rien changé. Et certains ont dit, il y a eu plusieurs positions, il y a eu ceux qui ont dit, non, on veut pas de Gnome 3 tel qu'il est conçu. On veut bien un Gnome 3, c'est-à-dire repenser pour... refondre l'interface, pour refondre les affichages, etc., qu'on ne veut pas de Gnome 3. Là, on ne parlait pas d'accessibilité, là, on parlait purement et simplement des voyants, enfin, des gens qui se battaient entre eux pour des questions à la fois techniques et à la fois de goût et de couleur, hein, c'est le cas de dire. Donc on avait ceux qui disaient, non, moi Gnome 3, non. Voilà, non. Puis d'autres qui disaient, moi Gnome 3, non, par contre, je veux garder la 2 parce qu'elle était très bien. Et le projet Gnome m'a dit, évidemment, non, non, continue, déjà, on n'a pas les moyens non plus de faire des milliards de développements, donc non. On a une orientation là-dessus. Ok, et du coup, les projets dissidents, ben je vous rappelle que c'est du logiciel libre, hein. Donc ils ont récupéré le code, ils l'ont embarqué chez eux, et ils ont fait leur projet. Alors c'est comme ça qu'on a un projet qui s'appelle Cinnabon, qui est une reproduction de Gnome 3, mais dans une autre façon de fonctionner, dans une autre manière de programmer la chose. Et puis on a Mate, appelez-le comme vous voulez, M-A-T-E, qui pour le coup, lui, il est la reproduction de Gnome 2. En tout cas, dans l'affichage, c'est la reproduction de Gnome 2. Donc les développeurs ont fait ça, et puis alors évidemment, assez tôt, il y a des gens qui sont allés les voir pour leur dire, mais tiens, puisque vous êtes à tout recoder, enfin à tout reprendre le code et à l'adapter à un nouveau bureau, est-ce qu'on pourrait pas intégrer l'accessibilité dedans ? Et eux, ils étaient un peu en crise de légitimité parce qu'ils venaient un peu de se séparer du dieu le père, concrètement. Donc quand on leur dit ça, ils ont dit, oui, forcément, on veut bien. Si on peut attirer les gens pour nous soutenir un peu, on veut bien. Et on est bien, c'est cool. Ça a demandé 2 ans de travail parce que ça reste des bénévoles, ça reste une problématique de la compétence quand même. Enfin, ça reste... C'est accessibilité, c'est pas... Voilà, tout le monde n'y rentre pas aussi facilement quand on est développeur. Il faut un minimum de courbe d'apprentissage. Et quand on est développeur, et quand on est surtout bénévole, on a parfois autre chose à faire, donc on ne le fait pas forcément. Mais aujourd'hui, grâce à cette diversité, Gnome 3, pour moi, il est toujours pas satisfaisant, même si il est effectivement sans bug majeur, mais il est toujours pas satisfaisant. KDE n'est toujours pas accessible. XFCE, qui est encore un autre bureau, n'est toujours pas parfaitement accessible parce qu'il n'y a pas assez d'interaction avec le clavier. Bref, il y a encore plein de bureaux qui ne marchent toujours pas. Mais comme on a la liberté de copier et de recopier tout ça, et qu'on a donc eu la possibilité de créer autre chose, à savoir Mate, on a au moins un bureau qui est accessible. Et donc c'est là où on en arrive à la fin, je dirais, de cette première partie de la chose, c'est de dire qu'aujourd'hui, grâce à cette diversité, grâce à donc cette possibilité qu'offre le libre de reproduire des choses, de les copier et d'en faire son propre projet, grâce à ça, on a dans cet échiquier des bureaux qui est complexe et qui est soumis à bien des tensions compte tenu du rapport au libre avec le grand public, Et aujourd'hui, on peut dire que ce problème a été surpassé au niveau de l'accessibilité, qui a été résolu. Alors la question qui va se poser très vite, c'est est-ce que ça ne peut pas revenir? Si. À condition que, est-ce que ça ne peut pas régresser de nouveau? Si. Et pour que ça ne régresse pas, eh ben, la solution, c'est que les gens se mobilisent comme le fait la communauté des logiciels libres, qui est l'une des communautés sans doute les plus démocratiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça existera autant que les utilisateurs feront que ça existe. C'est-à-dire que les développeurs seront d'autant plus motivés à faire les choses que les utilisateurs leur diront de les faire, et ils seront d'autant plus enclins à les faire qu'on leur expliquera d'abord que c'est bien, ensuite que c'est pas si difficile, et enfin que, socialement, ça correspond quand même bien à la manière dont on peut concevoir le libre aujourd'hui. Donc résultat, aujourd'hui, ces quatre libertés ont véritablement permis de retrouver une accessibilité, parce que si on avait dû se contenter de GTK et de Qt tels qu'ils étaient conçus avec GNOME et KDE, bah, on en serait toujours au même point qu'il y a deux ans, donc heureusement qu'il y a eu cette diversité, parce que ça a permis que le monopole soit dépassé, et que ce monopole soit mis en cause pour obtenir quelque chose de plus accessible. Et évidemment, ce qui va rester à faire après, c'est, comme je disais, à soutenir cet effort pour justement permettre que on ait un bureau aujourd'hui, enfin un bureau ou plusieurs d'ailleurs, mais qu'on ait un système qui permette l'accessibilité universelle, c'est-à-dire l'accessibilité inter-distribution, inter-bureau. Et ça, c'est un autre effort parallèle qui est en train de se faire. Et là encore, c'est parce que c'est libre qu'on peut se permettre de travailler sur tout ça, parce que si on universalise le lecteur d'écran, c'est aussi en étant capable de savoir comment marche le reste, ce qui renvoie à la liberté d'étudier. Et donc, de nouveau, on peut dire que le libre et la diversité qu'il permet, en termes techniques, est celui qui aura permis, sans doute, de rétablir assez rapidement, finalement, l'accessibilité. Je prends un exemple parallèle. Quand vous avez un environnement sous Windows qui n'est pas accessible, et que, bon, c'est vrai que ça arrive moins maintenant, mais quand vous avez un programme sous Windows qui n'est pas accessible, je crois que je dois utiliser, enfin, j'ai dû voir passer un lecteur d'écran sous Windows propriétaire. Non, pas le nom, parce que tout le monde le connaît. Et ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas grave, ça ne leur parlera pas. Et ce lecteur d'écran, en fait, il se trouve qu'il lisait pas très bien Firefox. Bon. Et donc il a fallu attendre à peu près un an pour qu'il supporte Firefox. Et sauf que ce qu'on ne nous a pas dit à ce moment-là, c'est que la mise à jour était payante. Alors ok, dans GNU Linux, j'avoue, ça n'a pas marché pendant deux ans, mais au moins quand deux ans plus tard ça a remarché, c'était gratuit. Alors que là, c'était payant et c'était quand même 300 euros. Donc chacun a fait la vision des choses. Je pense que là-dedans, le libre tire sa force justement de cette diversité, de la liberté qu'il offre, de pouvoir justement, si vraiment quelque chose dysfonctionne, si on arrive à sensibiliser les développeurs et si on arrive à sensibiliser les communautés, à mettre les choses en place, ce qui nous permet d'obtenir un bureau comme on a là, très concrètement.
Bon, la
synthèse est un peu rapide, je peux la ralentir si certains veulent essayer de le dire. Qui permet en gros d'accéder à tout l'écran. Donc ça ressemble beaucoup, pour ceux qui ont une expérience sous Linux, à GNOME 2 en fait, avec la possibilité d'accéder à l'ensemble des parties du bureau, en fait, avec un raccourci clavier qui permet du coup de descendre.
Accessoire menu, bureautique menu, éducation menu, graphisme menu, éducation bureautique menu.
Alors, par exemple, on a là...
Dictionnaire, visionnaire de documents, LibreOffice IT. JPR-HT, Teams, à gauche droite.
Il m'a appelé LibreOffice.
La
grande force de Mate, qu'il y avait dans GNOME 2 et qu'il n'y a plus dans GNOME 3, parce qu'ils ont adopté notre philosophie, c'est la possibilité de faire des paramétrages visuels relativement avancés. Ce qui est très pratique, vous allez me dire, pour un aveugle c'est quand même bon, mais pour un aveugle par contre c'est très pratique, parce que ça lui permet notamment, vous voyez, quand on va dans les préférences, ça va permettre de faire une petite démo. Tout ça au clavier, parce qu'à la souris, je vous rappelle qu'on ne peut pas le faire. Enfin, on peut, mais moi non.
Alors... Centre de contrôle. Administration menu. Référence menu. Adobe Flash Player. Apparence. Application démarre à apparence. JVR-HT, team de 4. JVR-HT, team. Tableau de bord supérieur de côté est du 4. Tableau de bord supérieur. Référence de l'apparence. Thème complet total. Personnalisé icône.
Donc là, c'est le thème. Et quand on est sur le thème personnalisé...
Enregistré sous point de suspension. Personnalisé point de suspension bouton.
En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que...
Personnaliser le thème. Contrôle complet total. Tableau avec 57 lignes de colonnes. Image. Vous avez contrôle complet total. Couleur complet total. Bordure de fenêtre complet total.
Et voilà tout ce qu'on peut régler. Et ça aujourd'hui, typiquement, sous GNOME, c'est plus possible. Sous GNOME 3 aujourd'hui, enfin on peut, mais en passant peut-être par des greffons et un tas de trucs, enfin, c'est très compliqué. Alors que là, on l'a directement en natif en fait. Et ça permet du coup aujourd'hui de de retrouver ce niveau d'accessibilité pour les malvoyants. Autre chose, c'est que pour les malvoyants, on utilise aussi un outil qui est, à la base, c'est pas fait pour ça d'ailleurs, mais ça donnait des effets 3D en fait au bureau. Donc on appelle ça Compiz. Et aujourd'hui, Gnome, il essaie d'interagir avec lui, mais pour un tas de raisons techniques un peu compliquées, ça interagit pas très très bien et ça donne pas les meilleurs résultats avec Compiz. Et ben, avec Mate, ça les donne parce que comme il a une structure beaucoup plus proche de ce qui se faisait avant et un truc beaucoup plus léger aussi, moins intégré, je dirais, ça permet d'avoir l'accessibilité requise pour ce genre d'outils. Et ça, encore une fois, tous bureaux, ça fait 2 ans qu'ils sont en train de développer, en partant bien entendu de l'existant, de ce qui avait été fait sous l'OM2. Et aujourd'hui, clairement, c'est ce qui permettra, et je me dis encore plus satisfaite, parce qu'il y a 2 ans, je disais une conférence quelque part, où je disais officiellement, la prochaine Debian ne sera pas accessible. Et bien aujourd'hui, je dis, la prochaine Debian sera accessible. Ben, je suis vachement content. Parce que c'est quand même une très bonne nouvelle de savoir qu'aujourd'hui on pourra. Voilà, certes, il y a encore des bidouillages à faire, il y aura des mises en place à faire, il y aura des paramétrages à faire, puis il faudra encore être documenté, enfin qui sont d'ailleurs pour la plupart documentés, mais voilà, il y aura du support utilisateur à faire pour que ce soit faisable. Mais au moins, à l'arrivée, l'utilisateur, il aura un bureau qui marchera tout de suite. Et si on se débrouille bien, parce que là on n'est pas encore dans la prochaine Debian, on est encore juste dans la phase de gel, si on se débrouille pas trop mal, et si Debian fait le choix d'utiliser Mate par défaut et pas Gnome, qui n'est pas encore acquis pour tout un tas de raisons, parce que Mate notamment est un peu jeune, donc c'est pas facile, même pour les mainteneurs des packs chez Debian, d'en faire ce qu'ils en veulent. Et donc, du coup, ça c'est pas gagné du tout. Mais si ça vient à se faire, là on pourra dire que sans même trop faire de manipulation, grâce à l'installeur accessible et grâce à ce bureau, on aura une Debian accessible tout de suite au démarrage, pratiquement. Et donc on l'aura retrouvé. Et si c'est pas le cas, aujourd'hui ils ont quand même fait en sorte pour que ça reste quand même relativement facile. Puisque si par exemple aujourd'hui on installe et que quand à une phase de l'installation on peut choisir d'installer Mate parmi d'autres bureaux, et quand on peut choisir, bah, tout de suite en fait on peut rendre cette distribution facilement accessible. Donc voilà, ce que je voulais expliquer c'était ça, c'était revenir sur cette diversité qui est à la fois source d'inquiétude mais source de force. Certes, c'est peut-être elle qui a fait que l'accessibilité a régressé pendant un temps, mais c'est aussi elle qui a fait qu'on a pu la retrouver. Et qu'on n'est pas soumis au choix monopolistique d'une entreprise ou d'un constructeur ou d'une chose, parce que si l'entreprise fait ses choix, la licence permet à d'autres d'en faire d'autres, de prendre le code et d'en faire ce qu'ils veulent. C'est un peu la même histoire qu'avec LibreOffice et OpenOffice, même si c'est pas pour des raisons techniques, c'est plus pour des raisons politiques et juridiques, mais le fait est que ça fonctionne. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Jean-Philippe, est-ce que tu sais pourquoi Gnome 2 a été aussi accessible? C'était quoi les raisons derrière? Il y avait des gens qui étaient motivés ou ils avaient travaillé pendant très longtemps dessus?
Ouais, il y avait des raisons profondes effectivement, qu'il faut aussi effectivement donner, c'est qu'à l'époque, ils avaient un soutien de Sun Microsystem, et la dite société embauchait quelqu'un spécialisé là-dedans. Attention. Cette personne a été virée évidemment quand on est passé à Oracle, parce que Oracle et le libre, c'est pas la même aventure. Donc, t'as vu l'euphémisme quand même? C'est beau, hein. On aurait pu faire pire. J'ai pas dit quoi, Oracle c'était des... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que l'aventure et Oracle et le libre étaient un peu différentes. Et du coup, ils n'ont pas continué évidemment à rémunérer la personne en question, qui est toujours développeur, développeuse d'ailleurs, c'est important de le dire évidemment. Développeuse chez Orca. Et du coup, bah, voilà, elle bosse en bénévolat, c'est autre chose, c'est se structure un peu différemment. Et forcément, il n'y a pas un travail aussi intense, évidemment. Parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens qui sont mis sur l'accessibilité. Après, techniquement parlant, bah oui, comme je disais, c'est un projet qui a été choisi par Gnome au départ en 2004. Et donc, ils ont tout construit ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont intégré à GTK les éléments de programmation nécessaires pour qu'on puisse se relier dessus. Ils ont intégré le tuyau qui permet de relier les éléments de programmation nécessaires au lecteur d'écran. Et donc, du coup, ils ont conçu le lecteur d'écran lui-même. Donc, en clair, ils ont fait une véritable intégration de l'ensemble d'une BI qui permet que ce soit accessible. Et la difficulté, c'est qu'en 2012, quand ils ont fait le Gnome 3, ils ont rompu cette pile. C'est-à-dire qu'ils ont dû mettre à jour le tuyau, mais ce n'était pas de bonne qualité. C'est comme si vous preniez un tuyau et puis que vous fassiez des branchements, que ce soit trop petit ou trop gros, et vous n'avez pas de tournevis pour les visser, donc ça ne marche pas. Et puis ensuite, au milieu du tuyau, il y avait une petite barrière qui ne se faisait pas comme elle aurait dû se faire. Et en fait, les courses, c'était moins accessible, ça passait moins. Et en termes déjà, ne serait-ce qu'Orca, déjà, a dû lui-même s'adapter pour répondre aux nouvelles exigences de la pile d'accessibilité. Et c'est pour ça que ça arrive. C'est les deux phénomènes conjugués qui ont fait qu'on l'a reculé.
Il y a aussi une volonté par rapport aux options d'accessibilité pour les malvoyants, donc de zoom, de changer les couleurs, changer les icônes, changer toutes ces choses-là. Ça a été une volonté de Gnome 3 d'enlever les choix.
Ça.
La raison étant de simplifier la vie pour l'utilisateur, lui donner moins de choix pour que ce soit plus facile, qu'il soit moins perdu, etc. C'est un choix délibéré effectivement de Gnome 3 d'éviter de submerger l'utilisateur avec des choix, mais du coup, ça laisse moins de choix de personnalisation pour l'accessibilité. Là, par contre, il y a vraiment un conflit de choix, je pense.
C'est ça.
D'où une diversité.
Le fait qu'il y en a d'autres qui vont continuer à vouloir cette diversité de choix, voilà. Et qui font que ça fonctionne mieux, clairement, ça donne un bien meilleur résultat. Après, Gnome, ils prétendent, enfin, si on les écoute, hein, ils prétendent que c'est toujours possible de faire ces personnalisations en ajoutant des greffons supplémentaires, des modules complémentaires. Ce qui est vrai, mais alors par contre, la différence, si vous voyez, entre Scala et les modules complémentaires, c'est que Scala, on le fait au clavier, alors que les modules complémentaires, faut coder. Bon, on va faire sur le clavier aussi, vous voulez. Mais il faut coder, et là, pour le coup, je ne suis pas certain que le grand public soit dans la mesure de coder dans le pays actuellement. Ça va venir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, même si c'était le cas, d'ailleurs, est-ce qu'il en a vraiment envie peut-être pas, et je le comprends tout à fait. C'est très légitime, ça.
Moi, je comprends, ça veut dire que les greffons dont il parle n'existent pas. Il dit que c'est possible avec les greffons, mais ces greffons n'existent pas.
Alors, évidemment, ils commencent à exister, hein, tout doucement, mais bon, c'est encore dans des... Par exemple, il y a une loupe là, qui vient d'être rajoutée au niveau de la pile de Gnome. Ils viennent de rajouter un Gnome Magnifier. Bon, très bien, hein, moi, je suis un vrai note, hein, mais ça reste encore pas parfait, quoi. Ça s'adapte aux vues qui sont... qui ont effectivement besoin d'une correction visuelle, mais qui ne sont pas trop dégradés. Si c'est trop dégradé, après, il faut grossir encore plus, et là, la loupe, elle ne marche pas forcément très bien. Et puis surtout, non, on ne peut pas, les greffons pour adapter la bordure, les couleurs des bordures, etc., ça n'existe pas. Il n'y a pas de gens qui ont conçu... Ce qu'il aurait fallu faire, en fait, c'est concevoir des thèmes directement pour que l'affichage soit conforme à des besoins. Mais c'est très difficile, parce que créer autant de thèmes que de besoins visuels, quand on sait que la malvoyance, ça peut être... Il y a des milliards de malvoyances possibles. C'est très compliqué en fait. Du coup, les thèmes n'existent pas parce que c'est vrai que ça n'a jamais été fait. Et puis en plus, il n'est pas du tout dit le jour même où il en existera qu'il soit adapté à un contexte de nous. Typiquement, c'est bien de faire des contrastes, mais il y en a qui ont besoin des couleurs inversées. Alors c'est bien si on fait un thème avec des contrastes, mais si on ne fait pas un thème avec des couleurs inversées, il se passe quoi? Alors, bah, il se passe rien. Donc le mieux, c'est de le laisser à la main de l'utilisateur. Après, la chose qu'il faut bien retirer la leçon de tout ça, c'est que cette liberté existe, et elle existera d'autant plus que les gens l'utiliseront. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, le libre a ses débats, mais comme souvent, ceux qui ont raison dans le débat, c'est ceux qui font. Alors, c'est très vrai dans les liens, c'est complètement vrai dans les liens. C'est pas aussi vrai peut-être dans d'autres projets parce qu'il y a des aspects aussi prioritaires, soutien financier et autres petites choses, mais quand même de manière générale, si les utilisateurs se mobilisent pour expliquer les choses, sensibiliser les développeurs et demander des choses concrètes, être capable de les accompagner, et c'est vraiment ce que fait Liberté Zéro, c'est de faire ça. Le but, c'est de rassembler des utilisateurs pour harmoniser les besoins, faire une vraie force de masse. Et nous, ensuite, derrière, on se charge de l'aspect plus technique. Mais, encore une fois, si ces utilisateurs ne font pas ce travail de militantisme, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est évident que les choses sont potentiellement un peu plus difficiles à faire bouger. C'est-à-dire, LibreOffice, ça a commencé à bouger le jour où quelqu'un a dit LibreOffice, qui a longtemps été un peu difficile d'accès sous Windows, ça a commencé à bouger le jour où on a dit bon maintenant quand même ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse un effort. Et à force de montrer que le besoin existait, à force de montrer que l'État est en train d'y passer et que sans ça on ne va pas s'en sortir, etc. Il y a un processus qui s'est enclenché, un peu complexe, mais qui s'est enclenché, qui fait qu'aujourd'hui on est sur une version accessible. Et ça, ça demande à ce que ça soit, d'abord il faut le demander, et puis une fois que c'est demandé, il faut le soutenir, il faut donner aux développeurs l'envie d'y aller en testant leur truc, en leur disant ce qui va pas, et soit leur dire c'est du gros abrutis si ça marche pas, parce que ça marche pas non plus ce système-là, évidemment, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour faciliter cet échange, parce que les utilisateurs réagissent comme ça, c'est leur droit, mais nous après avec les développeurs, on essaie d'être un peu plus constructifs, voilà. Voilà, expliquant pourquoi ça marche pas. Mais en même temps, je suis pas en train de dire que les utilisateurs ont tort, au contraire, voilà, chacun s'exprime avec son langage. Mais si déjà ils peuvent le faire, et qu'après nous derrière du coup on peut tester, reproduire, bidouiller et du coup accompagner le changement, et ben voilà, l'utilisateur, chacun à son niveau, a fait avancer les choses et c'est bien ce qu'on a. Un problème tout basique, on parle pas anglais par exemple. C'est compliqué aujourd'hui quand on ne parle pas anglais de contribuer concrètement au libre, parce que les projets sont internationaux et que et puis l'informatique est en anglais. Donc là encore, on est là pour justement relayer ces trucs-là, on échange avec la personne, on reproduit, on analyse, et puis après on passe en anglais les choses et on poursuit l'échange avec les développeurs en anglais. Mais c'est, encore une fois, il faut bien que les gens prennent conscience dans le libre que l'utilisateur a un rôle crucial. Il y a des power users, il y a des utilisateurs un peu qui font un peu plus que les autres et qui occupent le terrain, mais d'abord ils ne sont pas éternels, et surtout ce sera d'autant plus facilité et leur travail dépensera d'autant moins d'énergie que derrière il y aura un soutien utilisateur et un retour utilisateur. Autre problème aussi, c'est s'il y a un retour utilisateur aussi d'un point de vue plus... s'il y a des gens qui veulent bien essayer, qui veulent bien tenter un certain nombre de choses, ça permettra peut-être aussi potentiellement de dégager certaines finances, en fait, tout simplement. Ces finances, ça peut permettre de refaire ce qui s'était fait avec GTK2 et de payer un développeur, pour un ou deux développeurs, pour faire fonctionner le projet. Et ça fait partie des choses qui sont tout à fait possibles, mais encore une fois, il faut que l'utilisateur accepte de se mobiliser un peu, de tester, de comprendre et un peu d'avancer. Donc dans le libre, l'utilisateur a un rôle tout à fait crucial, et c'est encore plus valable dans l'accessibilité, qui est un domaine un peu d'expertise rare. En niveau technique. D'autres remarques?
J'avais d'autres questions. Je suis étonné par ce que tu dis sur Qt, parce que je suis l'accessibilité d'un petit peu loin, mais j'avais l'impression qu'il y avait une équipe KDE qui bossait dessus. Enfin, au moins, il y a quelques années, il y avait une équipe qui bossait dessus et qui, d'après ce que j'avais compris, arrivait au même résultat que GNOME. Enfin, l'image que tu en donnes m'étonne.
C'est très récent.
C'est extrêmement récent et c'est pas fini en fait. C'est un travail qui n'est pas fini.
Derrière, j'avais une autre question qui concernait que de plus en plus émerge le marché des tablettes tactiles, qui je suppose vont vous poser encore plus bien d'autres problèmes. Si les interfaces actuelles, la tendance c'est de plus en plus de tourner dessus. Et pour moi, j'avais compris que Qt, sa grande force, c'était de permettre ça. Par exemple, il y a une conférence de Bruno Coudouin qui explique qu'il a migré, j'ai compris, de GTK à Qt dans cette saison. Donc, moi, dans mon esprit, si tu veux, Qt était accessible et grâce à ça, allait permettre peut-être d'avoir un support d'une façon ou d'une autre pas trop pourri, une accessibilité pas trop pourrie pour les tablettes. Et du coup, l'image que tu en donnes me fait penser que je me trompe.
Ouais. C'est pas se tromper, c'est juste que Qt, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que c'est un excellent environnement de développement apprécié par les développeurs. Beaucoup de monde y passe, que ce soit Canonical, il y a plein de monde qui passe à Qt parce que c'est un environnement de développement qui est sympa. Alors, en fait, je ne suis pas développeur suffisamment pour avancer, pour expliquer les raisons profondes, mais voilà, c'est un environnement qui est sympa, utiliser le toolkit est sympa, et l'interface de développement est sympa. L'interface qu'on ne sait pas, l'interface de programmation est sympa. Donc c'est aussi ce qui fait que tout le monde y passe, et typiquement, j'ai compris, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils y passent, parce que c'est vrai que c'est une interface qui est sympa, puissante, et qui donne de gros résultats. En termes d'accessibilité, ça fait longtemps qu'ils essayent de travailler sur la question, longtemps qu'on n'y arrive pas, clairement, ils n'y arrivent pas. Et ils commencent à y arriver effectivement sur les dernières versions qui sont sorties il y a 2-3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont été capables de faire en sorte que le tuyau qui relie le lecteur d'écran en fait à la partie graphique, à la partie technique qui génère les objets, ce tuyau est capable aujourd'hui de se connecter dans certaines conditions à Qt, et il est capable du coup de retransmettre une information au lecteur d'écran. C'est grâce à ça, par exemple, que certains logiciels sont devenus accessibles. Alors, je connais VirtualBox par exemple, si, parce que ça c'est libre. VirtualBox, en panier, moi j'ai Skype par exemple, je l'avais, mais bon, c'est pas libre du tout, donc ça m'embête un peu. Par contre, voilà, VirtualBox pour le coup, qui est donc sur Qt, aujourd'hui a une meilleure performance en accessibilité qu'avant. Par contre, d'abord, c'est pas totalement terminé, parce que. Déjà parce qu'il va y avoir un grand processus de mise à jour, hein, parce que les évolutions au niveau de Qt, il va falloir qu'elles soient répercutées au niveau des programmes, et ça c'est pas encore fait pour demain. Et surtout, c'est pas parce que effectivement aujourd'hui Qt a un meilleur potentiel, qu'il commence à progresser, et qu'on a effectivement avancé sur ces points-là, que l'environnement de bureau global, quand on installe vraiment KDE en tant que tel, est accessible. Ça c'est toujours pas le cas. Et au niveau des tablettes, typiquement, on n'aura pas dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, mais pas dans les prochains mois, de système d'exploitation qui pourra être libre, surcuté et accessible. Parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de... Il y a encore beaucoup de bugs, en fait, dans l'implémentation qui a été faite de l'accessibilité. Il y a encore beaucoup de bugs, en fait. C'est loin d'être... Ah voilà, ça va marcher pour les utilisateurs un peu... Voilà, pour les power users, quoi. Ce que j'appelle les gens qui vont devant, qui vont... Ok. Mais encore une fois, dans une logique grand public, ce ne sera pas suffisant. Ils vont trouver que... Celui-là, il faut aller grand. Parce que ce ne sera pas suffisant. Et donc Qt, la limite aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un effort qui est fait depuis longtemps, qu'ils n'arrivent pas à boucler d'ailleurs, et même si là, ils ont bien avancé ces derniers temps, ça n'est pas encore, ça n'atteint pas du tout la qualité de GTK, loin de là. Pour, à ce jour, on est encore très loin. Je déplore, parce que le jour où on pourra accéder à KDE, ce sera cool, parce qu'il y a plein d'applications très très sympas de KDE. Mais malheureusement, ce jour... les objets n'ont pas encore été suffisamment mis en relation avec l'API générale d'accessibilité pour que ça fonctionne. Alors, il y a l'outil de Loop qui avait été mis en place aussi, mais c'est pareil, c'est une solution assez parcellaire qui n'apporte pas toute la solution requise.
Après, il y a une précision à savoir aussi, parce que là, on a parlé tout à l'heure des ressources humaines sur GTK et l'accessibilité. Les ressources humaines de Qt sur l'accessibilité, c'est 1 à 2 bénévoles. Depuis vraiment très peu d'années. Donc il faut bien voir que sur le temps imparti, le travail a été très parcellaire. En plus, il y a eu un trou parce que les bénévoles avaient eu des problèmes personnels et autres, et sont revenus à peine il y a quelques temps, donc forcément ça ne progresse pas à la même vitesse.
Et puis il y a eu aussi que Qt n'est plus soutenu par Nokia, puisque par la force des choses, et ça explique aussi, c'est-à-dire que ça fait moins de monde, ça fait moins de mouvement, du coup les devs qui faisaient de l'accessibilité peut-être ont envie de faire autre chose parce qu'il y a d'autres urgences. Et ça explique aussi que ça ralentit le process. Ça fait partie des choses. C'est, encore une fois, l'idée là-dedans, c'est jamais de taper sur personne, parce que si les choses en sont là, c'est pas, il n'y a pas de responsable. C'est comme ça. Enfin, c'est la vie du livre et c'est ce qui fait un peu sa limite au livre, justement. Mais à la limite, sa limite et sa force. Le fait est que on s'en limite au constat. Le constat est que ça ne marche pas encore très bien. Après, oui, les raisons, il y a plein. Et tout à fait légitime, d'ailleurs. Complètement.
Je voudrais juste préciser un truc. Tu dis qu'il y a des applications KDE qui sont bien sympas, tu peux toujours lancer ces applications KDE dans un environnement maté.
Oui, c'est vrai. C'est ce qui se passe avec VirtualBox d'ailleurs et ça fonctionne, effectivement. Et c'est pour ça que c'est un bon début d'ailleurs, parce qu'on peut effectivement commencer à accéder à GTK, à Qt, à des applications Qt dans ces conditions. Par contre, il n'est pas encore question de lancer un environnement entièrement KDE.
Mais oui. C'est juste ce qui fait le gros débat actuellement dans Debian, on l'a demandé plusieurs fois et j'ai dit non à chaque fois. Du coup, quand on installe Maté, ça installe la lib Qt parce qu'on installe aussi la pile d'accessibilité qui, du coup, installe le petit morceau pour faire marcher les applications Qt. Et donc, du coup, ça installe Qt. C'est pas content, mais j'ai dit non. Et le projet Debian me soutient a priori. Enfin, de manière générale, les gens sont d'accord.
Débat contemporain.
C'est dur, mais.
Débat très contemporain.
Et disons que les gens, quand ils installent Cinnamon, ils sont très forts pour Cinnamon, ils voient Qt qui est installé, ils disent pourquoi.
Alors Cinnamon, au niveau accessibilité, je vais le dire de suite, c'est on rentre dans le bureau, et là le lecteur d'écran est muet. Intégralement muet.
Je suis d'accord.
C'est rare les bureaux qui arrivent à ce niveau d'inaccessibilité.
Le
KDE, il y a quand même des petits trucs qui marchent à droite à gauche.
Mais c'est vrai, enfin, sans lui, après c'est... Il n'est pas content d'ici la mode, on aurait pu très bien dire Dom 3. Enfin, mais c'est vrai que le mec qui veut que Dom 3 attend du GTK, puis on met du Qt. Pourquoi ? Parce que Qt, il y a des applis qui marchent quand même. Typiquement, VirtualBox marche très bien en Qt. Mais... Il ne doit pas être la seule, c'est la seule que j'utilise, je ne la pose pas libre, mais ça peut être la seule. Il y
Non, il y a d'autres lecteurs multimédia assez connus qui se basent sur un player qui marche en QT. Bon, il n'y a pas grand chose dedans, mais ça marche quand même. On peut avoir le temps de la durée de chanson, c'est toujours ça.
C'est génial.
Par contre, j'ai pas compris ce que Samuel a refusé, je crois que c'est bien qu'il a parlé, a refusé l'histoire de QT, j'ai pas compris ça.
Non, c'est actuellement, quand on installe, que ce soit un bureau GNOME ou KDE,
oui,
ça installe quelques petits morceaux de l'autre bureau. C'est-à-dire quand on installe le KDE, non, pour KDE, j'ai pas dû le mettre justement parce qu'il est vraiment pas accessible, il n'est pas, pas utilisable tel quel dans Debian, mais quel que soit le bureau qu'on installe, XFCE, GNOME, Cinnamon, MXDE ou
Matin,
comme ils sont au moins un minimum accessibles, on a rajouté le lecteur d'écran par défaut dedans pour qu'il soit disponible. Et du coup, de fil en aiguille, ça tire le morceau qui permet de rendre QT accessible, parce qu'on ne sait jamais, un utilisateur peut très bien installer une application QT dans son environnement GNOME ou autre, et il a besoin d'y accéder.
Donc du coup,
ce qui se passe, c'est que quand on installe un GNOME, ça tire la QT. Juste parce que, pour faire marcher l'application QT, au cas où, on en aurait besoin.
Et qu'est-ce que tu refuses alors ça,
je refuse d'enlever cette dépendance.
Il y a des gens qui m'ont dit à ça.
Il y a des gens qui ont dit je ne veux pas que QT soit installé, j'ai dit j'en ai rien à faire, ça vous économise 10 mégaoctets sur le disque dur, faites passer pour 10 mégaoctets.
D'accord, oui, d'accord, c'est dans le bon sens, oui, ok, j'avais pas compris comme ça. J'avais pas compris. Oui, d'accord, mais j'avais pas compris, je voudrais comprendre le sens en fait, je pouvais bien comprendre le sens.
Ah, quand même, pour un package common et.
Non, ça change rien.
Non, de toute façon, ça tirera du QT. Parce que ça tire le morceau qui fait le lien entre l'accessibilité de manière générale et l'IQT. Et ce morceau-là, il utilise l'IQT. C'est implémenté comme ça. Donc, on n'a pas réécrit en autre chose que
on peut inverser les
NPC avec le
Pour info, s'il y en a qui veulent tester tout ce qu'on a évoqué là devant, il y a un atelier qui est fait pour ça. Alors quand on dit pourquoi les aveugles le râlent tout le temps sur l'accessibilité, pour les aveugles c'est d'autres endroits, parce qu'il y aura beaucoup sur l'accessibilité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, alors je le redis, après tout le temps. J'assume mon côté. Si vous voulez tester un peu tout ça, si vous voulez qu'on sur un vrai ordinateur, voire même avec le vôtre, si vous voulez tenter l'aventure pour tester, pour voir à quoi ça ressemble, pour voir comment Orca se comporte dans votre bureau, et puis si vous voulez tout simplement qu'on échange de manière informelle, même si on peut d'ores et déjà le faire, y compris sur le stand Liberté Zéro, mais si vous voulez qu'on le fasse dans le cadre de ce genre d'atelier, ça, c'est fait pour ça, c'est de 14h je crois, un peu comme ça.
Ouais.
Si vous avez envie, on est pas là, on sera et d'ici là, on est sur le stand, évidemment, en attendant. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est encore un tout petit peu là.
Est-ce qu'il participe à l'accessibilité? Est-ce qu'il y a des communautés ou il y a des trucs en place?
Oui.
On peut s'enseigner, on peut donner un petit coup de main.
Oui. Oui, oui, oui. Il y a, d'un point de vue très transversal, il y a donc Liberté Zéro, qui est l'association vraiment qui est le point d'entrée francophone transverse sur l'accessibilité. Et après, il y a la possibilité de contribuer. Alors ça dépend après sur quoi tu veux travailler. Soit tu peux par exemple participer au groupe accessibilité de Debian, par exemple, qui réfléchit à cette question. Sinon, Ubuntu a également son groupe d'accessibilité. GNOME aussi a son groupe d'accessibilité. C'est d'ailleurs qui développe Orca. Il y a KDE a son groupe d'accessibilité, qui est quand même là, qui existe. Ils ont bien du mal à le faire fonctionner, mais il existe quand même. Bon, voilà, il y a tout un. Moi, ce qui m'a rappelé, c'est un peu publiciste que je raconte, mais Liberté Zéro, c'est vraiment le bon point d'entrée, parce qu'au moins ça peut permettre de poser la question sur les projets sur lesquels on a envie de travailler, et après de s'y impliquer effectivement, de rentrer doucement dans la thématique et de, voilà, de voir doucement comment on fait. C'est une première fois. Après, voilà, ça dépend des affinités que tu as. Par exemple, si tu veux rester dans l'univers Windows, bah oui, ça peut exister, des libristes Windows, il y en a. Et ben, tu peux travailler par exemple sur le lecteur d'écran qui s'appelle NVDA sous Windows, qui est libre aussi, open source. Et pour le coup, il est complètement libre d'ailleurs, il est sous GPL. Il est vraiment libre. Et donc lui, voilà, c'est une autre façon de contribuer. Parce que après, typiquement, hein, pour donner un exemple très simple, hein, j'ai fait travailler récemment un développeur sur Orca. L'idée, c'est de rajouter une fonction qui était toute basique, hein, mais la possibilité de régler le volume de la synthèse vocale avec un raccourci clavier, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on pouvait régler le volume, hein, avec les préférences, mais on ne pouvait pas régler au clavier. Sur cette machine, on ne peut toujours pas d'ailleurs. Mais... et ben il l'a fait et ça lui a pas pris un temps fou quoi, il a juste regardé un peu le code d'Orca, puis il a compris comment étaient associées les fonctions et les raccourcis, puis il l'a fait. Ça peut être tout bête. Après ça peut être plus profond selon le temps que tu as à ta disposition, selon...
Ah ouais, pour ce genre de trucs, des petits trucs tout simples.
C'est ça, ça peut être ça, ou ça peut être un peu plus, voilà, ça peut être plus élaboré, ça peut être travailler plus sur les basses couches. Pour... Après c'est très... voilà, ça dépend de l'intérêt de programmation, le niveau de programmation et l'envie de temps qu'on a envie de passer. Ça peut être soit ça, soit...
Tout ça c'est développé en quel langage?
Python. Enfin, pour les hautes couches, hein, Orca, ça c'est Python. Après, plus on descend vers les couches un peu plus basses, on arrive à du C++. Je parle sous le contrôle de CB. Mais je crois que j'ai l'impression de voir. Plus on descend, plus on est en C++. Je dirais même, je crois que je peux me tromper, mais il n'y a pas de C un peu dans le GTK. C'est
en C.
Ouais, c'est ça. Le tuyau en fait qui relie le GTK avec le lecteur d'écran, c'est en C. Mais on peut déjà, avec du Python, faire plein de choses. On peut déjà faire beaucoup. Le lecteur d'écran, c'est un travail constant, notamment sa compatibilité avec le navigateur web. C'est un travail véritablement constant et on peut déjà faire, en faisant du Python, on peut déjà faire plein de choses. Pourquoi nous, merci.